croix de Jésus, j'ai trouvé enfin ma place. Accepté, brisé, tel que je suis, ébloui par tant de grâce. Ses mains qui devraient me bannir, par amour ont pris les clous. Au pied de la croix de Jésus, humble je reste à genoux. Je deviens son cher enfant. Autrefois égoïste et perdu, Dieu m'a gracié maintenant. Comment pourrais-je mépriser les frères que tu as aimés? Je vois tous les
Dans l'évangile de Marc, je lis ces paroles, chapitre 15, verset 29. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyons. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. À 2 reprises, on met Jésus au défi de descendre de cette croix. Lui qui était le Messie, le Fils de Dieu, il aurait pu effectivement descendre de la croix et il a dû être tenté par ses paroles. Vous savez, quand nous les hommes, on nous tente, on nous cherche, mais vas-y, puisque tu es un homme. Vous savez, en plus, nous avons les hommes masculins, ont leur fierté et leur virilité. Ils n'aiment pas qu'on insulte leur virilité. Montre-moi que tu es un homme. Montre-moi que tu n'es pas une mauviette. Et le Seigneur Jésus a eu pire. On lui a dit, montre-nous que tu es le Fils de Dieu. Nous, on croit. Si tu descends de la croix maintenant, on va tous croire en toi. Et pourtant, Jésus ne pouvait pas descendre de cette croix. Non pas à cause des clous des Romains. Ça ne le retenait pas vraiment. Vous savez, Jésus, c'est celui qui a dit au paralytique, « Lève-toi !» Et il s'est levé immédiatement sur ses jambes. C'est celui qui a dit à la tempête, « Tais-toi !» Et la tempête s'est tue immédiatement. C'est celui qui a dit à Lazare, qui était mort et enterré depuis 4 jours, « Sors !» Et il est sorti du tombeau avec toutes ses bandelettes sur son corps. Alors, croyez-vous que Jésus ne pouvait pas enlever les clous qui le retenaient à cette croix et descendre et leur dire « Oui, regardez, je suis descendu !» Mais il y avait d'autres clous qui le retenaient, et j'en ai dénombré 3, qui l'empêchaient de descendre de la croix. Le premier clou, celui qu'on a planté dans sa main droite, c'est sa soumission au Père. Les premières paroles qui sont mentionnées dans les évangiles de Jésus, savez-vous lesquelles sont-elles? Les premières paroles de Jésus, c'est seulement lorsqu'il avait 12 ans. Il était au temple, ses parents le cherchaient partout, et il a dit à ses parents qui le cherchaient, « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Et il dit ça à son père dans la chair, hein, à Joseph. De quel père parlait-il? Des affaires de mon père. Il parlait bien sûr de son vrai père, le Père Céleste. Certains disent que Jésus a découvert sa mission au cours de sa vie. C'était un homme comme vous et moi, et un jour, il a découvert qu'il était le Messie. Ça ne correspond en rien au message des évangiles. On voit qu'à l'âge de 12 ans, il savait très bien pourquoi il était venu sur la terre. « Je suis venu m'occuper des affaires de mon Père. Je suis venu faire la volonté de mon Père. » Et de son premier souffle jusqu'à son dernier, Jésus s'est soumis à la volonté du Père. Mais il a été tenté plusieurs fois de s'en écarter. La première fois, c'est juste après son baptême, Satan lui-même est venu lui proposer toutes sortes de tentations. Mais la pire des tentations, c'était dans le jardin de Gethsémané. Vous savez, ce jardin du pressoir à huile, comme signifie le nom Gethsémané. Après le repas qu'il avait institué avec ses disciples, le Seigneur est allé dans ce jardin pour prier avec 3 de ses disciples. Et sa prière était terrible, c'était une prière de combat spirituel face au diable qui pourtant dans les textes est invisible. Il n'est pas question du diable, mais la seule raison pour laquelle Jésus a transpiré des grumeaux de sang et a demandé l'aide de ses disciples, « Venez prier avec moi !» c'est parce qu'il était en conflit direct avec Satan. En Matthieu 26, je lis « Ayant fait quelques pas en avant, Jésus se jeta sur sa face et il pria « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Jésus n'était pas un robot programmé. C'était un vrai homme et le vrai Dieu en même temps. Et en tant que vrai homme, il avait sa volonté. Et sa volonté a été tentée à ce moment-là. Satan a dit « Laisse tomber. Tu vois bien que c'est horrible la croix. » Tu vas subir un procès injuste, tu vas être cloué sur une croix, tu vas souffrir. Laisse tomber. Et puis de l'autre côté, le Père qui dit « Rappelle-toi ma volonté. » Ma volonté, c'est que tu ailles jusqu'au bout, que tu boives toute la coupe. Quel était le choix qu'avait vraiment Jésus? Eh bien, il pouvait, par exemple, renoncer à donner sa vie pour des hommes coupables et stupides que nous sommes. Il aurait pu dire « pourquoi je vais donner ma vie pour ces gens-là? Il aurait pu aussi dire, j'en ai assez d'obéir au Père tout le temps, le Père dit ça, le Père dit ci, moi j'ai ma volonté, je veux faire ce qui me plaît. Et je n'ai pas envie d'aller mourir sur une croix, c'est atroce, j'ai envie de vivre une vie, en plus je suis capable de faire des miracles extraordinaires, je vais avoir une vie de roi. Vous savez que lorsque Satan l'a tenté la première fois dans le désert, c'est ça qu'il a suggéré à Jésus. Tu peux changer les pierres en pain, tu peux avoir tous les royaumes, tu peux régner sur la terre. Il lui a promis, il lui a dit, tu peux être le roi de la terre. Imaginez que vous receviez des pouvoirs extraordinaires. Mettez-vous à la place d'un super-héros. C'est la mode en ce moment. Et vous avez le pouvoir de guérir les malades, tous les malades, toutes les maladies. Vous avez le pouvoir, lorsque vous parlez, de convaincre les gens d'une façon extraordinaire. Comment vous utiliseriez votre pouvoir? Est-ce qu'au bout d'un moment, vous diriez, mais j'en ai assez, moi, de guérir les gens. J'ai envie de mener ma propre vie. Les gens viennent me voir continuellement. J'ai des appels, des gens qui sonnent à ma porte. Je suis obligé de me cacher. Ils veulent, tout le monde veut être guéri. Les hôpitaux me téléphonent. Écoutez, j'ai un cas grave, venez le guérir. Moi, j'en ai assez, je veux avoir ma propre vie. Vous comprenez le problème? Le Seigneur Jésus aurait pu désirer avoir sa propre vie, mais ce qu'il voulait le plus au monde, c'est faire la volonté du Père. Il a été jusqu'au bout par obéissance au Père. Il a pris cette décision, il a dit non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il a eu cette tentation, oh si cette coupe pouvait s'éloigner, non pas ma volonté. Et il a pris cette résolution profonde dans son âme d'aller jusqu'au bout pour nous, d'obéir au Père jusqu'à la mort. Il a décidé de donner sa vie pour des impies, de renoncer à sa gloire et de subir la honte à notre place. Mais la tentation ne s'est pas arrêtée au jardin de Gethsémané, elle a continué, comme je vous l'ai dit, sur la croix. Lorsque on a crié « Descends de la croix !» Mais lui, il a été jusqu'au bout des souffrances pour nos péchés. Comme on dit, il a bu la coupe jusqu'à la lie. Hein, la lie, c'est le petit résidu qui est au fond, qui n'est pas très bon. Mais Jésus a tout bu. Il a subi toute la colère de Dieu pour nos péchés. Il n'a pas pris la moitié de la colère, il n'a pas pris la moitié de nos péchés. Il a tout pris sur lui. Et ses dernières paroles avant de mourir ont été « Tout est accompli ». Qu'est-ce qu'il voulait dire par cette parole « Tout est accompli » ? Qu'est-ce qui était accompli ? La volonté du Père. J'ai accompli, j'ai terminé tout ce que le Père m'avait demandé. J'ai achevé le plan de Dieu, le plan du Père. Il a dit aussi sa dernière parole « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Ce qu'on ne réalise pas quand on lit la mort de Christ, le récit de la mort de Christ, c'est que la mort n'a pas pris Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas mort au sens propre. Il a remis son esprit. C'est très différent. Vous et moi, si la mort vient nous chercher, nous mourrons. Et on ne pourra pas faire grand-chose. Mais le Seigneur Jésus ne pouvait pas être touché par la mort parce qu'il était sans péché. La mort, c'est un jugement sur le péché. Jésus ne devait pas mourir. Il aurait pu vivre éternellement sur la terre puisqu'il était sans péché. Mais c'est lui-même qui a accepté de donner sa vie. C'est pour ça qu'il dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains » et il partit. Hein, il est vraiment parti. C'était le premier clou qui le retenait. Il devait aller jusqu'au bout pour obéir au Père. Maintenant, nous qui nous appelons chrétiens, est-ce que nous avons le même esprit d'obéissance à notre Père? Nous avons le même Père que Jésus-Christ. Est-ce que nous aussi, nous aimons obéir au Père? Le Seigneur a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Obéissez-moi. Avec Dieu, l'amour et l'obéissance sont liés. Si vous dites, oh, j'aime Dieu, et quand Dieu vous demande quelque chose, vous dites, non, alors ça, non, ça, je ne veux pas le faire. Oh, mais j'aime Dieu, j'aime tellement Dieu. Et puis, chaque fois que le Saint-Esprit vous met quelque chose sur le cœur, ah non, mais ça, non, ça, c'est pas pour moi. Résultat, je n'aime pas Dieu. Hein. Si j'aime Dieu, je veux lui obéir. Le Seigneur Jésus a montré hein, à quel point il aimait son Père. Il y a trop de personnes, malheureusement, dans les églises qui n'aiment pas vraiment Dieu. Ils aiment les bénédictions de Dieu. Ah ça oui, on aime les bénédictions. Quand on est malade, on aime qu'il nous guérisse. Quand on n'a pas d'argent, on aime qu'il nous en donne. Mais là, il n'est pas question d'aimer les bénédictions, il est question d'aimer Dieu, notre Père. S'il est vraiment notre Père, est-ce que nous l'aimons? Est-ce que nous le respectons? Parfois, c'est difficile parce qu'on a eu du mal, des problèmes avec notre Père terrestre. Soit qu'on n'ait pas eu vraiment un Père présent, soit que notre Père n'ait pas été aimable, si on peut dire. Et ça complique parce que après, on reporte sur Dieu hein, cette image faussée du Père. Mais ça demande un changement de pensée, une repentance sur ce sujet, de dire « Dieu n'est pas un Père terrestre. Dieu est le Père céleste. Il est parfait. Il n'est pas trop dur, il n'est pas trop mou. Il est juste ce qu'il faut. Il m'aime d'une façon éternelle, extraordinaire. Alors je veux lui obéir. » Est-ce que vous aimez la volonté de Dieu? Est-ce que nous aimons obéir au Père comme Jésus l'a fait? Il y a un deuxième clou qui retenait Jésus sur cette croix. Ce n'était pas le clou des Romains, c'était le clou de son amour pour nous. L'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, nous rappelle que Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Cet amour était si fort que Jésus a accepté de mourir sur une croix. On peut dire « je t'aime », mais c'est jusqu'à un certain point. Hein. Lui, il a dit « je t'aime » jusqu'à la croix. Jusqu'à la mort ignominieuse de la croix. Jésus n'est pas mort en héros sur son destrier, les armes à la main. Jésus est mort comme un ver de terre sur une croix qu'on a clouée. Et pourtant, c'est par amour qu'il a accepté ça. Son amour était si vaste qu'il a aimé des impies, des rebelles, des maudits, que personne n'aurait dû aimer. Des gens qui suivaient le diable, des gens qui rejetaient la bonté de Dieu, qui ne remerciaient pas Dieu, eh bien, il nous a aimés, quand même. Car lorsque nous étions encore sans force, dit l'Épître aux Romains, chapitre 5, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ n'est pas mort pour des saints. Il n'est pas mort pour des chrétiens. Il est mort pour des impies, des pécheurs, des coupables. Là aussi, il avait le choix. Il aurait pu dire moi je préfère laisser les hommes à leur juste condamnation. Ils ont désobéi, ils n'ont pas voulu remercier le Père, je les laisse à leur mort éternelle. Il aurait pu nous laisser nous dépêtrer avec le mal hein, qui habite en nous, nous laisser sans espoir. De toute façon, il ne nous devait rien. Il aurait pu penser encore une fois à son propre confort. Lui, il était sans péché. Pourquoi il allait se décarcasser pour des pécheurs? Lui, le juste, pourtant, est mort pour des injustes. Il nous a tellement aimés qu'il a voulu nous sauver par pure grâce. Comme je l'ai dit, Dieu ne nous devait rien. Dieu n'était pas obligé d'envoyer son Fils et Jésus n'était pas obligé de mourir pour nous, mais il l'a fait par amour et par grâce. Personne ne nous a aimés comme Jésus nous a aimés. Ce deuxième clou qu'il a retenu, c'était son amour pour nous. Et nous, comment est-ce que nous aimons les autres si nous sommes sauvés, si nous avons l'esprit de Jésus-Christ? Il y a ce verset qu'on ne note pas assez souvent dans la première épître de Jean. Et c'est facile à retenir parce que c'est 1 Jean 3,16. Vous avez l'évangile de Jean 3,16 et puis vous avez la première épître de Jean 3,16 et les deux parlent de l'amour et se suivent. Et que dit 1 Jean 3, verset 16 ? Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Je dis qu'on ne remarque pas ce verset assez souvent parce qu'il parle de donner sa vie pour ses frères. Nous, on est bien d'accord d'avoir des copains dans l'église, des amis, des copines, de manger ensemble, on prie ensemble, on va à l'église ensemble. Mais là, il ne parle pas de copains-copines, là. Il parle de donner sa vie pour ses frères. Alors, donner sa vie, ça ne veut pas dire se suicider, évidemment. Ça ne veut pas dire forcément aller mourir sur un champ de bataille, je ne sais pas. C'est donner sa vie de son vivant, c'est-à-dire donner son temps, donner son attention, son écoute, ses prières, ses encouragements. Parfois, c'est bien matériel pour aider l'autre. C'est ça, donner sa vie. Est-ce que j'aime mes frères et sœurs au point de donner ma vie? C'est Jean qui continue au verset 18, il dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » L'amour chrétien, l'amour de Dieu, ce n'est pas des belles paroles. Il faut aimer son prochain, aimons-nous les uns les autres. Ça, c'est des paroles. L'amour ne parle pas, l'amour agit avec vérité. L'amour se donne, agapé, l'amour qui se donne. L'amour qui se donne gratuitement, je précise. De même que Jésus s'est offert gratuitement pour nous, nous devons donner notre amour gratuitement, c'est-à-dire, si je vais aider mon frère ou ma sœur, je n'attends pas en retour une récompense. Je n'attends pas qu'il me rende ce que je lui ai donné et je n'attends même pas un merci. Si je suis dans l'amour, je vais dire merci à celui qui m'aide, hein, évidemment. Mais celui qui donne, il donne par amour gratuit. Ça, c'est le vrai amour chrétien. Où en sommes-nous dans cet amour, n'est-ce pas? Où en sommes-nous? Et Jésus, en mourant sur la croix, nous a montré la voie du vrai amour qui donne sa vie pour les frères et sœurs. Mais non seulement pour les frères et sœurs en Christ, mais bien sûr pour notre famille dans la chair. Et je pense aussi à tous nos concitoyens. Notre prochain, c'est tous ceux qui sont autour de nous. La personne avec qui je prends le métro, avec qui je travaille, mon voisin de palier. Là aussi, est-ce que je suis prêt à donner ma vie pour ces personnes? Oh, mais mon voisin de palier, il faut le voir. Vous dites donner votre vie, mais il ne se rase jamais, il sent mauvais, et puis il ne dit jamais bonjour. Est-ce que Dieu a dit qu'il fallait aimer les gens aimables et bien rasés, qui mettent du parfum? Non, le Seigneur nous demande d'aimer les perdus, les pécheurs, et d'aller leur apporter l'évangile, la bonne nouvelle, qui les mettra en place, qui remettra justement leur vie d'une belle façon. Le troisième clou, c'était dans ses pieds, et c'est le clou de nos péchés. Jésus-Christ n'est pas resté cloué sur cette croix parce qu'il était un pauvre martyr, un incompris. Non, il est resté sur cette croix parce que c'était le seul moyen de sauver l'humanité du péché. Le seul moyen. Il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé que par le sacrifice de Jésus-Christ. Je vais vous dire pourquoi. Parce que s'il y avait un autre moyen, Jésus ne serait pas venu mourir sur cette croix. S'il a fallu que le Fils de Dieu, le Messie lui-même, monte et soit cloué sur un poteau de torture, c'est parce qu'il n'y avait pas d'autre solution au péché de l'homme. Si on avait pu tuer peut-être des milliers d'agneaux en disant en tuant 1 000 agneaux, on peut sauver 10 000 habitants de la terre. Bien, on aurait pu peut-être essayer et Jésus ne serait pas venu. Si on pouvait être sauvé en disant si tu pries 3 fois par jour, régulièrement, tu seras sauvé. Jésus ne serait pas venu mourir sur la croix. Il aurait dit priez 3 fois par jour et vous serez sauvé. Si on pouvait être sauvé en allant à l'église, en faisant un pèlerinage jusqu'à Jérusalem, ben Jésus a dit, faites un pèlerinage jusqu'à Jérusalem et vous serez sauvés. Il ne serait pas venu sur cette croix. S'il est mort sur la croix, c'est qu'il n'y avait pas d'autre moyen de sauver l'homme du péché. Pourquoi ? Parce que le péché a une conséquence éternelle, la mort éternelle. Et il fallait que quelqu'un meure pour qu'on ait la vie. Pour qu'on soit pardonné. Et il n'y avait qu'une seule personne dans l'univers qui pouvait mourir pour nous. C'est le Messie, c'est Jésus. Parce qu'il était un homme parfait. Un ange ne pouvait pas mourir pour les autres hommes. Un animal, bien sûr, dans l'Ancien Testament, on sacrifiait des animaux dans le temple, mais on savait que c'était en attendant l'agneau de Dieu, parce que les animaux ne faisaient que couvrir le péché. Le Yom Kippour, hein? La grande fête juive, fête de l'Éternel. Kippour, c'est un mot hébreu qui veut dire couvrir. On a traduit en français le grand pardon, mais ce n'est pas le grand pardon. C'est le grand couvercle. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu ne faisait que couvrir le péché par le sang des animaux. Mais en Jésus-Christ, il est dit que Jésus a ôté le péché. C'est Jean-Baptiste qui a dit ça, hein? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'y avait que Jésus qui pouvait faire cela parce qu'il est le Seigneur choisi et envoyé par le Père. Pierre écrit, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. De quoi avons-nous été guéris ? Du mal qui habite en nous, de la force du péché qui est plus forte que la nature humaine. Jésus nous a guéris du péché. C'est merveilleux, ça c'est la meilleure nouvelle qu'on puisse entendre. Et peu importe si je meurs d'une maladie, si je suis guéri du péché, c'est ça qui compte. Mais nous, chrétiens, est-ce que nous avons réalisé que nos péchés ont cloué le Seigneur sur cette croix ? Lui, il a voulu rester sur la croix pour payer tous nos péchés, mais est-ce que nous réalisons que nos péchés l'ont cloué ? On dit, pendant des siècles, l'Église de Rome a dit, ce sont les Juifs qui ont tué Jésus. Et puis les protestants ont compris que ce n'était pas les Juifs, c'était en fait les Romains. Et puis après, on a dit, c'est ni les Juifs ni les Romains, c'est nous tous. Parce que personne n'a tué Jésus, comme je vous l'ai dit. C'est Jésus qui a donné sa vie pour nos péchés. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de péchés dans les églises ? Est-ce que c'est parce que Christ n'est pas capable de purifier les chrétiens ? Loin s'en faut. C'est parce que les chrétiens que nous sommes, nous ne réalisons pas la gravité du péché. Nous abusons de la grâce de Dieu. On nous apprend que Dieu pardonne. Et c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. En Jésus-Christ, nous sommes pardonnés. Mais la mauvaise réaction à ça, c'est de dire, ah bon ? Eh bien, je vais en profiter pour pécher alors, puisque de toute façon, je suis pardonné. Au temps de Paul, il y avait même des gens qui disaient, péchons plus pour que la grâce abonde. Il disait, il faut encore plus pécher, comme ça la grâce de Dieu va se manifester encore plus. Vous vous rendez compte de ce raisonnement tordu ? Alors que si Jésus-Christ est mort, c'est pour qu'on ne pêche plus, justement. Et chaque fois qu'un chrétien pêche, il désobéit au Père. Il offense l'amour de Jésus. Et il oublie que c'est ce péché aussi qui a cloué Jésus sur la croix. Certains s'appellent chrétiens, mais ne le sont pas vraiment. Ils ne sont jamais passés par la repentance. Ils sont venus à Jésus comme on vient à un gourou ou à une idole ou à une divinité, mais ils ne se sont pas repentis de leur péché. Ils n'ont pas reconnu la gravité du mal qu'ils ont commis. Parce que le mal que nous avons commis nous condamne à mort, la mort éternelle. Beaucoup de gens ont du mal avec ça. Tout le monde est prêt à reconnaître qu'il est pécheur. C'est rare les gens qui disent « Ah, moi je suis sans péché, je n'ai jamais péché de ma vie ». C'est très rare. Ou alors c'est des gens qui sont un peu dérangés. Par contre, si vous dites « Ah, vous êtes pécheur, très bien », donc vous réalisez que vos péchés vous séparent de Dieu, vous êtes condamné éternellement en enfer à cause de vos péchés. « Ouh là là, attends, vous allez trop fort là. C'est vrai, j'ai commis des péchés, mais je n'ai pas tué. Je ne suis quand même pas quelqu'un d'horrible, je ne suis pas un monstre. Même, je pense que je suis peut-être même un peu mieux que les autres autour de moi. Alors, Dieu va m'accepter, même avec mes péchés. » Non, Dieu ne vous acceptera pas avec vos péchés. Il n'y a aucun péché qui rentre au ciel. La Bible dit dans l'Apocalypse, il n'y a rien de souillé qui entre dans la Jérusalem céleste, ni d'impur. Il faut que la question de nos péchés soit réglée avant de mourir. Et le seul qui peut régler la question de nos péchés, c'est Jésus-Christ, lorsqu'il est mort sur cette croix. Celui qui met sa foi en Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, est lavé, pardonné pour toujours. Mais après ça, si Jésus nous lave et nous pardonne, c'est pour que, justement, on soit éloigné du péché. Comme je l'ai lu dans Pierre, « Afin que mort au péché, vous viviez pour la justice. » Un chrétien, normalement, il est mort au péché. Et mort au péché, ça veut dire on n'est plus du même monde. Je n'ai plus les mêmes valeurs, comme disait la publicité. Maintenant, j'ai les valeurs du royaume de Dieu. Je n'ai plus les valeurs du royaume du diable. Maintenant, je ne patauge plus dans le péché avec joie. Maintenant, le péché me hérisse, me dégoûte. Ça, c'est un vrai chrétien. Et quand l'Église est remplie de vrais chrétiens comme ça, l'Église avance en pureté. Quand l'Église est remplie de gens qui veulent le péché et Jésus en même temps, qui disent « Moi, je veux bien être sauvé, mais je veux garder ma vie, je veux faire ce que je veux avec ma vie. » Ça ne fait pas des chrétiens, ça. Parce qu'au milieu, il n'y a rien. Ou on est avec le Seigneur Jésus, ou on est avec le péché. Et le Seigneur nous appelle à nous repentir, à reconnaître le mal qu'on a fait et la gravité, les conséquences du mal. J'en ai déjà parlé, mais j'en répète ici. Nous avons une sœur en Christ à Londres qui travaille pour une organisation dont le but est, dans les prisons, d'aller parler avec les jeunes délinquants, les femmes et les hommes, et de les amener à comprendre la gravité des faits qu'ils ont commis. Parce que la plupart d'entre eux n'ont aucun remords, aucun regret. Même la prison les endurcit. Quand ils sortent, regarde, moi j'ai fait de la prison. T'as vu ? Et ils sont fiers. Et non seulement ils sont prêts à recommencer, mais ils vont recommencer. Et ce programme chrétien a pour but d'accompagner dans des cours obligatoires, hein, quand même, ces jeunes hommes et ces jeunes femmes, en leur montrant la gravité du mal, en leur parlant de leurs victimes. Mais est-ce que tu sais ce que ta victime a ressenti quand tu as arraché son sac et que tu l'as traîné sur 20 mètres avec ton scooter? Et ils disent, les premiers cours, c'est glaçant, parce qu'ils n'ont aucun regret. Ben alors, c'est comme ça, hein, moi j'avais besoin d'argent. Hein. La conscience complètement froide. Mais petit à petit, avec l'amour de ces chrétiens qui s'occupent de ces jeunes, qui vont les voir plusieurs fois par semaine, qui parlent avec eux un à un, qui leur montrent, témoignent de l'amour de Dieu, petit à petit, les cœurs fondent, se ramollissent et ils commencent à réaliser. Et elle m'a montré ces lettres de ces délinquants juvéniles où ils écrivent à leurs victimes en disant « Maintenant, je comprends le mal que je vous ai fait, je vous demande pardon. Je ne sais pas si vous pourrez un jour me pardonner. Quand un délinquant écrit ça, c'est qu'il s'est passé quelque chose quand même. Eh bien, c'est ce que Dieu veut faire dans nos vies à tous. On dit, mais moi, je ne suis pas un délinquant, moi. Moi, je suis quelqu'un de bien, je paye mes impôts. Mais aux yeux de Dieu, nous sommes pécheurs comme le délinquant en prison. Ce n'est pas le même degré, évidemment. Hein. Celui qui a volé ou tué, il est plus coupable. Mais nous avons fait d'autres péchés, nous. D'orgueil, d'égoïsme, de vanité, etc. Et le Seigneur nous appelle à nous repentir. Et il nous rappelle que son amour l'a poussé à mourir pour tous ces péchés abominables que nous avons commis. C'est merveilleux d'avoir un sauveur comme Jésus-Christ. Et on va terminer par la prière. Si vous voulez vous incliner avec moi devant notre Père, et d'abord, si vous êtes chrétien, ce n'est pas parce que vous êtes déjà sauvé que vous n'avez pas besoin de repentance. Nous avons régulièrement besoin de nous repentir, de réaliser que nous avons offensé notre Sauveur par nos désobéissances, notre rébellion à sa parole, à son esprit. Le Seigneur veut qu'on soit des chrétiens qui l'aiment de tout cœur et pas d'un cœur partagé. Alors prenons ce temps maintenant pour demander pardon au Seigneur qui nous a rachetés à un si grand prix.